Eh bien, bienvenue à tous pour cette saison 4 d'Autour du Feu qui est consacrée à la toute nouvelle saison de Koh-Lanta, les armes secrètes. Salut à tous, c'est Damien, évidemment je suis ravi de vous retrouver pour cette saison qu'on va prendre un grand plaisir à débriefer tous ensemble. Et avec moi forcément une team de choc, on va commencer par celui qui croque les candidats sur Topito, c'est Freeze. Salut Freeze.
Salut Damien, salut tout le monde, ravi d'être de retour pour une saison qui s'annonce prometteuse, donc... Très content d'être là.
Et avec des gros gros personnages, et tu vas nous en parler je crois, parce qu'il y en a qui ont bien retenu ton attention.
Que oui, oh que oui.
Alors ensuite avec nous, quelqu'un que vous allez être habitué un petit peu, parce que c'est vrai qu'on a des intervenants qui commencent un petit peu à faire partie des meubles. Le premier, c'est Jade. Salut Jade.
Salut Damien, écoute, quatrième saison sur Autour du Feu, et encore une fois très très content d'être de retour.
Ensuite, avec nous, il fait aussi podcast sport, mais il participe avec nous. C'est Wilson. Salut Wilson.
Et salut Damien. Très content d'être là avec l'équipe solide.
Forcément, habitude, on a toujours comme ça des anciens candidats qui viennent avec nous un petit peu commenter les épisodes. Et là, on a eu un de nos chouchous de la saison dernière qui a fait un move qui nous a tellement fait plaisir et je pense qu'il s'est fait plaisir aussi. Salut Aubin.
Salut tout le monde et merci beaucoup pour cette invitation.
Alors toi, comment ça va du coup, toi Aubin, depuis la fin de la saison? Comment va ta vie?
Eh bien, écoute, très très bien. C'est vrai que une fois que la vague Koh-Lanta passe, il y a comme un petit soulagement qui se fait et très vite ça nous manque rapidement. Donc voilà, je suis très très content qu'il y ait un nouvel épisode qui arrive parce que du coup ça ravive un peu tout ça.
D'ailleurs, Aubin, je vais te demander, parce que je sais que Mathieu s'était un peu répandu dans la presse, où il avait des trucs pas très sympas d'ailleurs. Est-ce que ça va mieux avec lui ou est-ce que vos rapports sont toujours un petit peu frais?
Non, écoute, je dirais pas que ça va mieux, je dirais pas que ça va moins bien. En fait, on parle pas, tout simplement. On a échangé la dernière fois, il a mis une petite musique sur Instagram. Je lui ai écrit en disant que c'était une de mes musiques préférées, mais sinon, voilà, on a plus spécialement d'échanges avec Mathieu.
Ouais, j'imagine que c'est des choses qui arrivent aussi. Parfois, c'est après la saison. Bon, y a des gens avec qui les rapports... Au final, il n'y a pas de rapport. C'est pas que vous ne vous aimez pas, quoi.
Mais voilà, en fait, c'est exactement ça. Et c'est ce que je dis depuis le début de mon aventure. En fait, Koh-Lanta, c'est une grosse famille. On ne peut pas s'entendre avec tout le monde. Et comme dans une famille, mine de rien, un peu comme à Noël, il y a des cousins avec qui on a plus d'affinité et d'autres avec qui on n'en a pas du tout. Mais mine de rien, quand tu les vois, t'es content de les voir. Donc, je pense que ce sera un peu la même chose si demain on se revoit avec Mathieu. Déjà pour les autres et même pour nous, pour passer un bon moment, on fera peut-être abstraction de tout ça, mais de nous-mêmes, on va pas s'écrire toutes les semaines.
On va tout de suite passer à la nouvelle saison, les armes secrètes. Alors, déjà, première chose qu'il faut dire, c'est qu'enfin, on se barre des Fidji pour aller en Polynésie. Alors vous, justement, est-ce que vous êtes content de ça?
Totalement, ça m'a fait ultra plaisir de voir de nouveaux décors. Et l'arrivée en pirogue, j'ai trouvé ça juste génial. Même si les plans coupés, je ne connais pas le terme technique, ça faisait un peu cheap. Mais pour le reste, c'était vraiment un pur plaisir de découvrir un nouveau lieu. Et ça change des Fidji totalement.
Ah, moi, j'ai pas trop vu la différence, pour être honnête. Mais peut-être que ça viendra sur les épisodes suivants. Après, je me suis plus concentré sur les candidats, je vous avoue. Donc, ça m'a pas frappé, mais à part l'eau qui est un peu plus claire, effectivement. Mais en tout cas, les paysages sont magnifiques. Et comme la saison dernière, je trouve qu'il y a une vraie plus-value au niveau du montage et des images. Je trouve que ça, autant ça frappait pas sur les années précédentes, autant là, je trouve que c'est vraiment magnifique. Il y a des plans vraiment très beaux et tout, donc ça, c'est chouette.
Même si au début, ils ont fait un split screen comme 24 heures chrono.
Ouais, ça, c'était peut-être pas nécessaire, mais bon.
Ensuite, donc là, on va présenter donc le thème de cette saison, les armes secrètes. Et du coup, ça fait enfin un thème stratégique, vraiment, puisque c'est des avantages. Nous, bon, pour les gens qui connaissent un peu Survivor, ce sont des avantages qu'on a déjà vus dans la version américaine, mais qu'on peut d'ores et déjà présenter. Il y a notamment un annulateur de collier. Il y a le fait de pouvoir voler le vote de quelqu'un pour avoir un double vote, et aussi le kit ou double qui permet donc de provoquer en duel au conseil quelqu'un, et si on gagne le duel, eh bien on est immunisé. Bon, vous, pareil, je vous posais la question, puis je poserai la question à Aubin ensuite. Est-ce que ça vous paraît être un bon thème? Est-ce que le fait que ces avantages soient le thème de la saison, est-ce que c'est quelque chose qui vous plaît? Enfin, en gros, quels sont vos sentiments un peu généraux vis-à-vis de tout ça?
Moi, j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Effectivement, c'est peut-être la première saison où le twist tourne vraiment autour de la stratégie, parce que tout est un peu annoncé dès le départ. Alors, pas à tout le monde. On ne sait pas vraiment dans quelle mesure ceux qui ne sont pas capitaines savent un peu, connaissent un peu les armes secrètes et comment va se passer la suite, etc. Je ne sais pas s'ils en ont parlé. Je crois pas que ça a été montré, en tout cas. Mais peu importe. Dans tous les cas, c'est super intéressant. Après avoir à voir comment elles vont être utilisées, c'est toujours ça. Ça dépend beaucoup du casting, mais sur le papier, c'est très sympa.
Mais je suis assez d'accord sur le côté sympa, mais j'ai vraiment enfin, je suis très curieux de voir comment ça va être utilisé, parce que on parlait de version américaine. On sait qu'en France, il y a tout ce côté stratégie qui est pointé parfois du doigt. Donc ici, ça devient un peu plus un jeu. Et rien que le fait que tous ces avantages donnent un côté un peu plus jeu à cette saison, ça peut être déjà une saison qui est différente des autres, qui parfois sont peut-être un peu trop sérieuses. On l'a vu d'ailleurs au montage, on en parlera sûrement plus tard, mais qu'on semble que la direction de cette saison, elle va pas être très pesante. Et ça, c'est cool, parce que je crois qu'on en avait besoin.
Ouais, pareil, je trouve la majorité des avantages plutôt cool. Ça donne une certaine fraîcheur au jeu. Et concernant les avantages, déjà le premier avantage qui a été exposé au capitaine, j'ai trouvé ça génial d'avoir une double utilisation. Donc il y a une utilisation qui peut être collective, offensive, et de l'autre côté, si les deux capitaines ne s'entendent pas, ça peut justement avoir une autre utilisation. Et là-dessus, je les ai trouvés plutôt créatifs. Ça change tout simplement des avantages qu'on voit souvent, comme l'écolier d'imiter ses cibles après conseil, etc. Donc évidemment, je pense que ça va bouleverser le jeu et ça va forcer certaines personnes à considérer des options qu'ils n'auraient jamais considérées en temps normal.
Et toi, Aubin, alors du coup, quelles sont tes pensées un petit peu sur le thème de cette nouvelle saison ?
Alors moi, le thème, je l'apprécie énormément. Et c'est vrai que j'en ai discuté beaucoup avec Adrien et on a eu un peu l'impression d'être tombé dans la mauvaise saison. Parce que ces armes secrètes, en fait, ça va venir, je pense, redistribuer énormément de cartes, parce que le collier, on s'y était un peu habitué. Peut-être même un peu trop. Et le fait de voir de nouveaux objets avec justement des doubles pouvoirs, c'est ça en fait moi que je trouve intéressant. Parce que ce que je disais, si c'est pour prendre un bracelet et l'appeler le bracelet d'immunité, ça, c'est pas très très utile. Par contre, le talisman qui va devoir venir créer par exemple des alliances, quand on regarde par exemple Aurélien et Laetitia, si je me trompe pas dans les prénoms, tous les opposent et mine de rien, ils sont reliés par ça. Et moi, je trouve ça très, très intéressant, parce que ça va donner cette obligation de faire de la stratégie à des candidats qui n'en auraient peut-être pas fait avant ça.
C'est d'ailleurs ce qu'on peut un peu regretter, mais je pense qu'on en parlera après, c'est que le casting ne soit pas à la hauteur de ce twist, je pense, en termes de stratégie, même si on peut être surpris, hein, ne faisons pas de bilan trop vite, mais on a quand même l'impression, au vu des profils, au vu des portraits, etc., que ce n'est pas des joueurs qui vont être très axés stratégie, comme pouvait l'être Aubin ou Adrien la saison dernière, et d'autres, et que du coup, ce twist-là va compenser un peu la faiblesse du casting, dans cet aspect-là en tout cas, et c'est peut-être dommage. Alors après, c'est vraiment de la supposition, on n'en sait rien, peut-être qu'on va être surpris dans le bon sens et je ne souhaite que ça, mais j'ai un peu peur que justement ça atténue ce côté-là et ça serait dommage, mais on verra.
Alors moi je pensais justement, je trouve intéressant que ces armes-là elles obligent à des joueurs qui à la base ne partaient pas du tout pour ça à faire de la stratégie, parce qu'un joueur qui est joueur, qu'il ait une arme secrète ou qu'il n'en ait pas, dans tous les cas, il jouera. Par contre, moi, je trouve intéressant de voir le comportement, par exemple, d'un candidat qui était parti à la base en se disant pro-mérite et qui, une fois tombé là-bas, change complètement son fusil d'épaule.
Mais de toute façon, le casting, t'en a un peu parlé, Freeze, mais c'est peut-être juste le côté, un des rares points négatifs que j'ai trouvé au début, c'est plus que juste des sportifs, c'est le fait que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de fois des profils très semblables. Je ne sais pas si c'était à cause des circonstances particulières, mais on se retrouve vraiment avec beaucoup de gens qui vont se ressembler. Et elle ne va pas avoir ce côté un peu où des gens qui ne devraient vraiment pas jouer ensemble vont être forcés. Bon, ça a été forcé un peu par le twist avec les capitaines, comme a dit Aubin, mais est-ce qu'on retrouvera ça souvent ? J'ai l'impression que cette saison-ci, ça va être peut-être un bémol.
Bah justement, Wilson et Freeze, vous m'offrez une transition toute faite sur le casting. Vendredi soir sur Twitter, j'ai beaucoup de gens qui ont dit qu'on aurait dit un casting dont le thème était Basic Fit, parce qu'il n'y a que des coachs sportifs quasiment. Donc c'est vraiment des profils très très orientés sport, et donc des coachs sportifs, il doit y en avoir quoi, deux ou trois chez les femmes notamment. où on avait l'impression que le casting masculin était beaucoup plus diversifié en termes de personnalité que le casting féminin, dont on pouvait penser que l'une des rares caractéristiques était vraiment le fait d'être, bah, d'être coach sportif, justement. Et ça, je voulais savoir si vous aviez eu la même impression aussi sur le casting, justement, sur vraiment la toute première impression que vous en avez eue. Bah, du coup, je vais commencer par, par Jade.
Pour le coup, les impressions que j'ai eues en regardant les portraits se sont plus ou moins confirmées devant l'épisode. C'est-à-dire que la majorité des personnalités, des personnages qui m'ont marqué sont des personnages masculins. Après, il y a eu certaines femmes qui se sont démarquées un peu, notamment Candice, on en reparlera. Mais pour le coup, il y a encore beaucoup de candidates dont on ne sait pas grand-chose. On espère évidemment que ça va changer parce que dans certaines saisons, il y a des personnages marquants qu'on ne voit pas trop dans les premiers épisodes. Et après, on découvre que ce sont des personnages tout simplement géniaux. Donc, on verra ce que ça donne.
Du coup, Freeze et Wilson, vous en avez déjà un petit peu parlé. Mais est-ce que vous voudriez rajouter un peu un truc à ce sujet ?
Non, je suis assez d'accord avec Jade. Après, il faut se méfier de toute façon des premiers épisodes. On s'est souvent fait avoir par des portraits peu flatteurs ou des impressions qu'on avait sur les candidats qui ne se sont pas du tout avérées. Donc méfiance, même si c'est vrai que ça sent un peu le cliché pour l'instant, mais bon, ça risque sûrement d'évoluer avec les personnalités. Donc attendons de voir.
Oui, en plus au niveau du montage, on n'a pas eu vraiment. Ça a été très centralisé sur certains personnages. Il y en a vraiment dont on ne sait rien dans leur aventure, en tout cas, dans les premiers jours. Donc les portraits, c'est trop réducteur, je pense, pour faire des conclusions de toute manière.
Le problème de ce casting-là, alors le problème non, en soi ça n'est pas un, mais moi c'est vrai que je regardais Koh-Lanta en me disant, ben moi aussi je pourrais y aller depuis que je suis gamin, et alors que j'ai jamais été un très grand sportif, j'ai jamais été un pro en survie ou quoi que ce soit, mais j'avais quand même ce rêve d'y aller. Et en mettant sur une saison traditionnelle des candidats qui seraient peut-être trop sportifs au casting, mais ça casse un peu ce côté de monsieur, madame, tout le monde.
Ouais, ça c'est. Mais il y a même. Je pense que ça va même plus loin, dans le sens où j'ai l'impression que c'est une conséquence aussi des dernières saisons, parfois, où ce profil a été de plus en plus casté. Donc peut-être qu'au niveau, même au niveau des candidatures, ça va peut-être avoir une répercussion. Après, ça, on n'en sait rien. Mais effectivement. Ça, c'est un cercle vicieux. Si tu prends que des sportifs, bah, il n'y aura que des sportifs, et puis l'émission va prendre cette direction là
ouais, mais à ce moment là je regarde Ninja Warrior et plus Koh-Lanta. C'est grosso modo ce qui ressort, et même entre nous quand on en discute, c'est que le problème, c'est que l'émission, elle peut pas être axée que sur un type de profil, parce que sinon tu casses toutes les sens en fait de Koh-Lanta. Je pense que ça va être éphémère, que c'est pas une direction dans laquelle ils vont rester.
Totalement. Parce que en fait, moi, j'ai aussi ce que j'avais l'impression, donc dans les précédentes saisons, c'est-à-dire que la force de Koh-Lanta, c'est aussi l'identification. En fait, c'est vraiment comme toi, Aubin, tu l'as dit, tu dis voilà, même si t'es très sportif, bah t'as ce rêve d'aller sur l'île. Et en fait, en castant des sportifs, on va casser l'identification pour juste offrir du rêve aux gens qui veulent voir des énormes performances. Et comme tu l'as dit, hein, je pense que si on reste là-dessus, ah, justement, tu as toute la partie identification qui ne sera plus là, et ce sera uniquement des Jeux Olympiques sous les tropiques, en fait. Et ça, j'espère justement, comme toi tu l'as dit, Freeze, que ce ne sera pas une direction qui va être prise, on va dire, à long terme. Parce que au final, on a envie de s'identifier aussi. Je pense que ça, c'est très important, et c'est bien aussi qu'on l'oublie pas. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a quelques profils comme Vincent, par exemple, dont on reparlera. Ça, c'est des profils un petit peu qui sont moins dans le sport, et ça fait quand même aussi plaisir à voir. Donc l'épisode a commencé avec une épreuve à la base. Donc l'épreuve, c'était tous les candidats devaient partir de la plage, prendre un carquois. Donc les carquois avaient une couleur. Donc les couleurs donner des binômes, et ensuite les binômes devaient faire un parcours et faire du feu. Alors pour la première fois, lors de la version française, ils devaient faire du feu à partir d'une pierre de magnésite, et les fans de Survivor que beaucoup sont, voilà, pour expliquer à ceux qui connaîtraient pas, en fait, ça fait partie des épreuves avant d'accéder à la finale. En fait, si vous avez deux joueurs qui s'affrontent sur le fait de démarrer un feu avec une pierre de magnésite, et d'habitude, dans Koh-Lanta, le feu, on le fait vraiment à la méthode survie. Là, c'est la première fois qu'on voit ça. Et autant ce twist n'est pas très aimé par les fans américains, autant là, il a été, je trouve, très bien utilisé. Alors, ce que je voulais vous demander, c'est est-ce que vous avez apprécié cette épreuve et est-ce que vous avez apprécié de voir ce qu'on appelle aux États-Unis le Fire Making Challenge, de le voir utilisé de cette manière dans la version française, et est-ce que vous avez aimé un petit peu la manière dont ça a été adapté dans Koh-Lanta ?
Personnellement, j'ai pas mal aimé la première épreuve, même si on peut dire qu'elle a été assez longue, mais pour le coup, il y avait des enjeux à chaque niveau. Même l'idée de lier des gens au hasard, j'ai trouvé ça plutôt cool. Puis le côté faire le feu avec le magnésium, je pense que c'est aussi, par rapport aux armes secrètes, à préparer les candidats à un potentiel quitte ou double. C'est-à-dire que cet avantage, pour résumer en quelque sorte, c'est un avantage s'il est sorti au conseil. On peut provoquer quelqu'un en duel et si on gagne ce duel, on est immunisé. Alors que si on le perd, on écope d'une voix supplémentaire contre nous. Et du coup, comme c'est une épreuve au conseil qui est souvent utilisée dans l'émission américaine, on peut supposer, après il y aura peut-être un autre type d'épreuve, mais on peut supposer que c'est ce fire making, en quelque sorte, cette épreuve de réalisation du feu, qui sera reconduite pour ces duels-là.
Mais oui, j'allais dire, même par rapport à l'épreuve, moi j'ai une chose que j'ai bien aimée, c'est, encore une fois, c'est une épreuve où t'as beau avoir de l'avantage au début, à la fin, tu peux quand même finir dernier, donc ça amène plein de rebondissements, et c'est ces épreuves-là que j'ai envie de voir, ce qui a été, on en parlera plus tard, mais ce qui n'a pas été forcément la même chose pendant tout l'épisode. Et ça, c'était plutôt positif, parce qu'on a vu certains arriver très tôt à la table pour faire le feu, et finalement, ils ont galéré, et jusqu'à ne pas le réussir. Et il y a même eu des images un peu impressionnantes, l'image de Thomas, je pense qu'on en reparlera, qui prend le feu avec ses mains. Je veux dire, c'est quand même déjà une image forte pour un premier épisode.
Oui, je suis tout à fait d'accord. Moi, c'est aussi une épreuve que j'aime beaucoup dans la version américaine et qui, là, a été transposée plutôt intelligemment. Je pense que c'est beaucoup dû au binôme, parce que c'était un bon moyen de nous les présenter assez rapidement. On a vu rapidement des caractères ressortir, dont il faut passer un peu plus, on va dire. Mais du coup, je trouve que ça a bien mis l'épreuve en valeur. Et c'était vraiment, vraiment chouette. Il y a eu un peu de tension, il y a eu du suspense. Honnêtement, on ne peut pas demander beaucoup plus à une première épreuve, sans aucune cohésion dans les candidats et sans vraiment d'énormes enjeux. Et pourtant, ça a bien marché. Je trouve que visuellement, c'était pas mal aussi. Effectivement, avec le gars qui prend le feu dans les mains et tout ça, c'était chouette. Donc bon ajout, je trouve. Après, à voir si on reverra dans la saison. C'est pas impossible, comme disait Jade. Mais c'est intéressant d'avoir cet aspect directement de la survie dans la première épreuve. Je trouve que ça pose les bases. Et vraiment, c'était plutôt bien foutu.
Alors toi, Aubin, alors tu me corriges si je me trompe, mais il me semble que tu avais dû regarder, il me semble, la version américaine un petit peu. Donc toi, en tant que fan aussi, toi, je voulais avoir aussi ton sentiment sur cette épreuve et l'utilisation du Fire Making Challenge.
Et alors moi, la version américaine, je ne l'ai pas regardée. Je suis le vilain petit canard des stratèges, mais... Alors Adrien, il m'a envoyé toutes les saisons. J'avais commencé à les regarder et je m'étais pris un peu dedans. Sauf qu'en fait, la vie a fait que Koh-Lanta, à un moment donné, quand on est en plein dedans, en fait, c'est comme un vase. On en parle tous les jours et au bout d'un moment, il est rempli, on sature un peu. Et ce que je disais au début. Et donc du coup, je me suis dit je regarderai ça plus tard parce que j'avais vraiment besoin de faire le Pas le deuil, je vais pas parler de deuil, mais j'avais vraiment besoin de passer sur mon Koh-Lanta, en fait. Et donc, du coup, je me suis pas relancé dedans. Mais c'est quelque chose que je vais faire parce que j'en entends parler de tous les côtés et c'est vrai que ça m'attire beaucoup. Mais par contre, la première épreuve, moi, clairement, je l'ai regardée avec Brice et Aurélien. Et de suite, on s'est dit, mais c'est une épreuve qu'on aurait adoré faire. Ne serait-ce que les binômes au hasard. C'est quelque chose que je trouve très intéressant parce qu'on peut pas dire que c'est une volonté de la production d'associer une personne avec une autre. Donc déjà ça, je trouve que c'est super intéressant. Et encore une fois, ça va forcer à créer des groupes avec des personnes avec qui on le serait pas habituellement. Parce que quand on fait une première épreuve avec une personne, mine de rien, quand on est là-bas, ça crée quand même quelque chose. Donc moi, je trouvais ça très très intéressant. Le feu, c'est pareil, c'est ce que vous disiez, ça met une tension énorme parce qu'on l'a vu, il y a des cordes qui étaient en train de cramer, mais elles se coupaient pas. Et c'est vrai que c'est une partie du jeu que ça, on peut pas contrôler, une corde qui brûle pas plus vite qu'une autre, et que je trouve très intéressant parce que ça met le stress à tout le monde.
Une chose aussi que j'ai pas dite, c'est que encore une fois, donc bémol sur cette épreuve, c'est qu'ils ont ALP n'a pas pu s'empêcher de mettre un vote de pénalité à ceux qui terminent dernier. Et ça, et surtout, on l'a vu, c'est que pour 3 candidats sur 4, au final, ça n'a servi à rien, puisqu'ils sont allés au conseil, ils ont eu un vote contre eux, et ça n'a strictement rien changé. Donc ça, c'est, je sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve ça un peu casse-pied.
Bah, moi, je suis pas d'accord.
Ouais, moi non plus.
Dans le sens, en fait, pas sur ce tour-ci. D'habitude, je suis, vous le savez, hein, la saison dernière déjà, tout ce qui est épreuve éliminatoire, épreuve où on prend un vote, je suis plutôt virulent. Mais là, on a vu que... bah, tout le monde, enfin, on le verra dans le conseil derrière, mais ça a servi, ne serait-ce qu'à installer une paranoïa. Et c'était intéressant. Et du coup, je trouve que ça a été... C'est pas quelque chose que je défends, mais ici, ça a été bien exploité. En tout cas, ça a servi au jeu, et j'ai trouvé ça intéressant. Et on en parlera quand on parlera du conseil, je pense.
Et je pense que surtout, leur objectif, c'était, avec ces deux votes de pénalité, faire en sorte qu'on voit à peu près tous les binômes faire l'épreuve, et que l'épreuve ne s'arrête pas en 2 secondes chrono parce qu'il y a 2 génies de la survie qui auraient pu faire le feu en 1 minute. Et du coup, bah, ça a rajouté quelques séquences intéressantes, notamment celle de Thomas. Après, moi, je suis très content que les votes supplémentaires n'aient servi à rien, en quelque sorte, et qu'aucun candidat n'ait été réellement pénalisé à cause de ce vote-là, parce que moi, comme Wilson l'a dit, c'est quelque chose que je n'apprécie pas forcément de manière générale. Et là, pour le coup, le fait que ça n'ait pas servi à grand-chose au final sur le résultat, mais que ça nous ait permis de voir des séquences intéressantes, pour moi, ça passe.
Non, et en plus de ça, le problème du premier vote, c'est que moi, je l'appelle toujours, c'est le vote un peu facile. C'est le vote où personne ne veut trop se mouiller et où le choix, il se fait naturellement vers une personne et c'est très souvent la personne la plus âgée du groupe. Et donc, du coup, moi, je trouve que de mettre une voix pour soi à ce moment-là de l'aventure, c'est intéressant parce que quand c'est plus tard dans le jeu, bon, mais c'est soit ça passe, soit ça casse, mais en soi, s'il y a une bonne alliance, ça change rien. Alors que là, sur un début d'aventure, il suffit que la personne la plus âgée du groupe, elle s'associe avec une ou deux personnes, plus une voix supplémentaire. Moi, je trouve que c'est une très, très bonne idée de l'avoir mis dès le début.
Je suis assez d'accord avec Jade, pour le coup. Je trouve que je suis pas non plus un grand fan des trucs sanctions pour les derniers, mais effectivement, ça permettait d'avoir un petit peu plus d'enjeux que juste les deux premiers. Et du coup, c'était légitime, même si c'est pas forcément mes trucs préférés, mais dans le contexte de cette épreuve-là, je trouve qu'effectivement, c'était OK. Plus que certaines éditions où effectivement, ça sortait un peu de nulle part. Là, c'était pas illogique, donc je trouvais ça plutôt intéressant.
Donc, là, tout à l'heure, je crois que c'est Wilson qui en a parlé. Thomas donc, a ramassé le feu par terre pour le remettre. Donc ça, c'était quand même une scène assez marquante. Et au final, l'épreuve a été remportée par Aurélien et Laetitia d'un côté et par Hervé et Candice de l'autre, qui ont été désignés comme étant les capitaines des équipes jaunes et rouges. Et avec un petit twist, c'est-à-dire qu'ils avaient le droit à une des armes secrètes, c'est-à-dire une amulette. Et alors, ça, c'est intéressant parce que beaucoup de gens sur Twitter n'ont pas trop capté ce que c'était. Donc, on va rappeler, on peut utiliser cette amulette d'une manière offensive ou défensive.
Pour le coup, j'ai trouvé l'avantage ultra intéressant parce que si jamais on ne s'entend pas avec notre binôme, par exemple tout bête, si l'équipe veut éliminer Laetitia et qu'Aurélien ne veut pas se mouiller pour sauver Laetitia, Aurélien peut jouer sa moitié, comme ça il sait que Laetitia n'a pas de collier d'immunité et derrière, les votes contre Laetitia compteront. C'est un exemple tout bête, mais c'est une possibilité. Après, pour l'aspect offensif, j'ai quelques doutes parce que Denis parle d'un avantage secret. Donc moi, j'aimerais bien savoir si l'utilisation de l'avantage est aussi secret. Donc les autres candidats ne sont pas au courant qu'il y a 2 votes supplémentaires dans l'urne ou si l'avantage est joué avant les votes. Donc ça sera potentiellement vu au cas où l'avantage est joué en offensif. Et dans le cas où c'est joué en défensif, on n'aura pas la réponse, mais moi je m'interroge là-dessus, parce que ça change un peu l'utilisation.
Mais moi j'ai une autre question aussi, c'est et si les deux le jouent en même temps en tant que collier d'immunité? Parce que théoriquement, enfin, c'est le premier qui se lève. Est-ce que ça peut donner une scène cocasse si les deux se lèvent en même temps? Donc je ne sais pas du tout comment c'est géré. Je me questionne aussi.
Ça donnera un conseil plutôt cool à avoir.
Oui, ça c'est sûr. Mais je ne sais pas ce qui se passe du coup dans ce cas-là.
Aubin, toi, pareil, quelles sont tes pensées à propos de cet avantage.
Alors, moi, je pense que ça force le binôme des capitaines à se souder. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que du coup, on le voit, Aurélien, qui est un capitaine chez les jeunes, par exemple, qui se montre énormément, et l'opposé de Laetitia, qui est aussi une capitaine, mais qu'on voit pas forcément. Et je pense que ça va justement les forcer à s'associer, cette arme secrète. Après, pour moi, là, on rentre dans de la vraie stratégie. Utiliser une arme secrète comme on pourrait utiliser un pion aux échecs ou aux dames, soit pour attaquer ou soit pour se défendre, ben là, c'est plus le collier d'immunité qu'on sort pour sauver. C'est vraiment une arme qu'on utilise ben soit pour faire mal, soit pour se protéger. Donc, moi, je trouve que le talisman, c'est une très, très bonne idée. Mais encore, faut-il voir comment il sera joué. Et voilà, et surtout de savoir ce que ça va pouvoir créer entre les deux binômes, parce que c'est sûr que si ces deux binômes qui au bout de 3 jours ne se parlent plus et qu'il y en a un qui le sort sans forcément prévenir l'autre, ou que les deux le sortent en même temps comme on vient de l'évoquer, bah, la scène elle peut être extraordinaire, mais je trouve qu'il n'y aura pas de gros intérêt pour le jeu en soi, parce qu'il me semble que s'ils le sortent ensemble, c'est plus un collier, mais ça devient un double vote.
Ça dépend de leur volonté, je pense. Après, je suis pas sûr.
Bah, moi, j'ai compris. Alors, j'ai peut-être mal compris, parce qu'après, c'est vrai qu'on était plusieurs et on parlait beaucoup. Mais moi, j'ai compris que s'il y avait une partie qui était jouée, elle pouvait être jouée comme un collier. Et si les deux parties étaient jouées, elles étaient jouées comme un double vote. Moi, je l'ai compris comme ça.
Mais le problème, c'est que... Mais moi, ce que je me demande là, ici, c'est... Un collier, ça se joue après les votes, avant le dépouillement. Et du coup, bah, un double vote, ça se jouerait avant les votes. En tout cas, il faut donner l'information avant les votes à Denis. Du coup, forcément, il y a un truc qui
coince. Et ouais, mais du coup, si les deux parties sont sorties en même temps, c'est ça qui est peut-être pas expliqué. C'est que si les deux parties sont jouées en même temps après les votes, bah, elle va pouvoir protéger qu'une seule personne de toute façon.
Oui, c'est ça. C'est ça qui va être cocasse, je pense, si jamais ça arrive. Mais bon, peut-être qu'on fantasme et que ça n'arrivera pas du tout, et on sera déçu, donc peut-être pas avoir d'attente. Mais...
Alors par contre, une réflexion moi, que j'avais, je voudrais savoir ce que vous en pensiez, c'est qu'ils l'ont donné vraiment aux deux capitaines, donc les autres joueurs ne le savent pas visiblement, mais est-ce que ça risque pas de conforter le statu quo? C'est-à-dire qu'on donne aux deux personnes qui vont être les capitaines, donc qui sont, on va dire, en haut de l'échelle sociale de l'équipe, est-ce que ça n'aurait pas été plus intéressant de le donner aux gens qui ont été derniers, qui, comme ça, pour le coup, c'est-à-dire de dire, vous terminez dernier, vous avez une voix contre vous, mais vous avez cet avantage, histoire un petit peu de pimenter les choses. Est-ce que, justement, cet avantage ne risque pas de souder les positions dans l'équipe au lieu, peut-être, de rendre le jeu beaucoup plus ouvert?
Je trouve ça compliqué de donner un avantage à ceux qui finissent dernier. Ça va un peu à l'inverse de l'esprit de l'émission, même si ça aurait pu être rigolo, j'avoue. Mais bon, ça s'est jamais vraiment fait comme ça, et je vois mal Koh-Lanta évoluer dans ce sens-là. Après, ouais, ça aurait peut-être pu dynamiter un peu plus les choses, etc. Mais bon, ils ont fini premier, ils ont leur avantage, ça me choque pas.
Et puis ça fait un peu récompenser la défaite. Je suis pas sûr que c'est l'image.
Bah avec ce casting-là, ouais, non, clairement pas.
Ils vont tous vouloir être derniers à toutes les épreuves en espérant avoir une arme secrète.
Très bien, alors du coup on va passer aux équipes enfin. Donc l'équipe jaune qui est composée donc de Aurélien et Laetitia qui ont remporté donc l'épreuve, et avec eux Sylviane, Flavio, Mathieu le Corse, Myriam, Elodie, Chanice, Vincent et Thomas. Pour les rouges, il y a donc Candice et Hervé qui sont les capitaines, donc les autres vainqueurs de l'épreuve, et avec eux Arnaud, Maxine, Marie, Frédéric, Laure, Gabin, Magali, Jonathan. Alors, je voudrais passer d'abord à l'équipe jaune, parce que c'est vraiment l'équipe qui a un peu concentré toute l'attention vendredi soir. Et qu'est-ce que c'est que cette équipe? Qu'est-ce que c'est que cette équipe, franchement? De fous furieux, voilà.
Arrêtez tout. Jamais on aura une cabane. Hein.
Le truc, c'est que je suis pas capable de fournir mieux, tu vois, pour l'instant.
Ouais.
Donc, c'est un peu ça,
ouais. On tente.
Malheureusement, moi, je suis pas bricoleur à la base. Hein.
Ça se voit. Je pensais que tu étais bricoleur.
Moi ?
Ouais.
Je gère les achats pour un groupement pharmaceutique.
C'est pas grave. Ça s'apprend, hein, d'être bricoleur. Donc, c'est en forgeant qu'on devient forgeron.
Bon, alors, ce qu'on vient d'entendre, c'est donc Aurélien qui a pris le lead dans l'équipe jaune, et puis Sylviane qui met des taquets, tout simplement, parce que ça lui plaît pas. Et alors, Freeze, toi, je voulais venir vers toi parce que tu as eu beaucoup de commentaires aussi vendredi sur l'équipe jaune, sur sa formation, sur les gens qui la composent. Et je pense qu'il y en a qui ont aussi retenu ton attention et je pense que tu as beaucoup envie de nous en parler.
Ah bah bien sûr, l'équipe jaune qui est pas loin d'être une dream team, hein, très clairement, on n'avait pas vu ça depuis très longtemps, autant de winners concentrés dans une équipe. Mais il y a forcément un duo qui a retenu mon attention, alors l'un un peu plus que l'autre, mais c'est bien sûr Mathieu, candidat qui a beaucoup fait parler de lui, et dans une moindre mesure Thomas, un autre génie, mais peut-être un petit peu plus discret, mais je pense qu'il va y avoir une dynamique intéressante avec ces deux-là. Bon, alors pour parler de Mathieu rapidement, c'est compliqué sur ce premier épisode. Je pense qu'il va falloir en profiter rapidement parce qu'on sent que le jeune homme a du caractère, mais pas forcément un bon caractère, et que ça peut péter à tout moment, et que je pense que ça va péter dans pas longtemps. Mais en tout cas, il a fait beaucoup parler de lui. Forcément, hein, c'était une phrase, une punchline, donc c'était légendaire. Un petit accent corse pour ne rien gâcher. Et puis voilà, sa réaction à l'épreuve aussi qui a fait beaucoup parler quand l'équipe rouge a un peu fêté ça et qu'il a, comment dire, mal vécu ce moment-là. Donc ouais, c'est vraiment un énorme personnage. Comme tous les énormes personnages, ce que je disais, il faut en profiter parce que bon, clairement, je ne pense pas qu'il aille au bout. Sauf énorme revirement de situation. Mais en tout cas, j'ai hâte de revoir ses tatouages de loup et tout ça, parce que c'est un très très bon. Et donc, dans une autre mesure, moi j'ai beaucoup, peut-être encore plus, parce que Mathieu, je ne peux pas dire que je l'ai vraiment apprécié, même si c'est un personnage, mais il y en a un que j'ai beaucoup aimé, c'est Thomas. Thomas qui est un petit peu plus âgé, je crois que ça doit même être un des doyens, même s'il est jeune, il a 37 ans, je crois. Et Thomas, comment dire, un jeune homme assez simple aussi, mais qui a l'air d'être un bon vivant, un mec un ancien footballeur, il me semble, qui est maintenant chauffeur routier, et qui est un peu dans le même registre que Mathieu, c'est-à-dire que c'est un candidat qu'on sent quand même gentiment beauf, mais pas forcément méchant. Je pense que ça va être très intéressant de les suivre. En tout cas, là, sur cet épisode-là, ils nous ont régalé. Ça va être compliqué pour les jaunes, parce que tu sens que, bon, niveau stratégie, niveau même niveau du jeu, c'est pas forcément des joueurs très très, comment dire ça gentiment, très malins, mais en tout cas c'est des vrais personnages qui vont dans le sens du casting un peu sportif valeureux de la saison. Donc vraiment deux personnes à suivre de très très près, même si je pense personnellement qu'ils iront pas très loin ni l'un ni l'autre. Peut-être je me trompe, mais là ils ont bénéficié de la présence de Sylviane qui s'est fait éliminer rapidement, mais à voir ce que ça va donner, mais en tout cas, c'est pour un premier épisode du très très lourd.
Moi, j'ai sur Thomas, je suis peut-être plus optimiste que toi. En fait, c'est peut-être juste son portrait qui m'a un petit peu biaisé, mais ce qu'on a rarement vu, il a dit, moi je viens, c'est aussi pour les 100 000, faut pas se mentir, cet argent change une vie. Et quand il dit ça, moi je me dis, ok, en fait, il est aussi prêt. Enfin, souvent, moi, ce qui me pose problème, c'est quand les valeurs morales et éthiques, parfois, qui sont pas à propos dans un jeu comme celui-ci, prennent le pas sur le jeu. Et je pense que là, lui, il a dit clairement, bon, bah, s'il faut y aller, on y va, quoi. Et peut-être que ça va mettre du temps, peut-être que, justement, c'est pas quelqu'un qui va forcément réfléchir aux stratégies en amont, mais qui va peut-être pouvoir, enfin, qui va chercher à s'en sortir à tous les coups, et à tout prix, donc ça peut être intéressant à suivre stratégiquement, même si on parle pas ici de grands stratèges.
Je suis totalement d'accord avec Wilson concernant Thomas, et je voudrais revenir sur son portrait. Je ne sais pas si on peut passer l'extrait du portrait, mais il y a une musique assez épique qui pèse quand il dit « Je suis filou, il y a peut-être plus filou que moi, il faut faire attention, etc. » Et puis j'ai kiffé son portrait. Et voilà, moi j'attends de voir ce que Thomas peut donner, parce que c'est à la fois un personnage exceptionnel, comme l'a dit Freeze, mais c'est aussi pour moi un candidat qui a l'air plus malin que ce qu'il ne laisse montrer.
C'est pas très dur, hein.
C'est clair que quand on voit un candidat prendre le feu avec ses mains au premier jour, on se dit voilà. Mais derrière, je pense que le bonhomme, il est venu là pour gagner. Il n'est pas venu là pour faire figuration. C'est tout ce qu'on attend.
Venu là pour gagner, c'est sûr, mais est-ce qu'il peut gagner?
C'est ça encore une question. Mais... Voilà. Mais il va essayer. Et ça, c'est déjà,
c'est déjà
beaucoup plus que certains. Ouais.
C'est vrai.
Moi, je suis un grand compétiteur. Ça veut dire que je veux toujours gagner. Même si je suis plus faible que l'adversaire,
je vais quand même dire que je suis le meilleur. Pour le déstabiliser. Faut être filou dans Koh-Lanta. Mais dans la vie aussi, faut être filou. Hein. Donc oui, je suis filou, mais après... Il y a peut-être plus filou que moi, il faut se méfier.
Ouais, tout simplement,
c'est un extrait de Geoffrey Jourdan. Ouais.
J'adore.
Moi, j'apprécie vraiment le profil de Thomas. Parce que du coup, je trouve que c'est un des candidats qui, pour les garçons sur lesquels on peut s'identifier, alors oui et non, mais qui, on connaît tous un Thomas, en fait.
C'est vrai.
C'est ça que je trouve, c'est ça que je trouve intéressant.
C'est vrai.
Et mine de rien, dans son portrait, il dit « Moi, je vais être filou ». Donc, ça veut dire qu'il sait qu'il va falloir, à un moment donné, voilà, se salir les mains. Mais il dit aussi, il y aura peut-être plus filou que moi. Ça veut dire que d'un côté, il réfléchit quand même d'un coup d'avance. Et donc, moi, je trouve ça intéressant. Comparé à un joueur qui pourrait dire, ben moi, je suis stratège et voilà. En fait, là, Thomas, clairement, il dit que lui, il va sûrement se salir les mains, mais il va aussi se méfier des gens qui vont vouloir se salir les mains. Parce qu'il y a certains candidats qui partent en Koh-Lanta, on se dit, sans réfléchir, ben on a la preuve avec Mathieu. Qui a pas du tout réfléchi à ce qu'il fallait faire quand moi je l'ai éliminé. Donc moi je trouve son profil très 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 intéressant. Et par contre par rapport à Mathieu de cette saison, je suis plus mitigé parce que je sais pas en fait si c'est son vrai caractère ou si c'est un caractère pour la télé.
Tu crois ?
C'est ça que
c'est un bon acteur,
j'attends de voir la suite de l'aventure. Et je sais pas. Et je sais pas parce que je trouve que c'est beaucoup trop gros.
Bah, ouais, il y a le montage aussi, peut-être aussi.
Oui, il y a sûrement beaucoup de montage. Mais je trouve que c'est quand même beaucoup trop gros pour un début d'aventure de se faire remarquer toutes les 10 minutes parce qu'il y a le montage. Mais sur chaque action, j'ai l'impression qu'on sur ce premier épisode, en tout cas, qu'on l'a vu râler en fait. Et je sais pas si c'est son caractère qui est comme ça ou si c'est un caractère pour la télé. Mais de toute façon, il y a que la suite de la saison qui le dévoilera ça.
Moi, ce que je pense, c'est que comme tu disais, Aubin. Après, je sais pas. Enfin, est-ce que tu penses que si c'est un personnage, il peut le tenir sur tout le long ? Ça, c'est une question. Vu que toi, tu dis ça, tu y as été, donc tu penses que c'est possible. Mais on peut pas le tenir. Est-ce que c'est possible dans Koh-Lanta de le tenir longtemps, ce personnage ? Tenir un personnage.
Mais déjà, tu vois qu'il tient pas longtemps parce que le premier jour, il disait que rien ne changera et qu'il restera comme il est. Et au bout de 3 jours, mine de rien, au conseil, il a dit que c'est une aventure qui va le changer et il va sortir grandi. Alors déjà, tu vois, en 3 jours, son discours, il change.
Mais il va peut-être se calmer avec le temps, du coup. Et peut-être qu'il est parti aussi un peu... Enfin, il a perdu s'il est arrivé avec l'idée de gagner et de compétiteur.
J'y crois pas du tout au changement, je vais pas vous mentir. Pour moi, il est vraiment comme ça et je pense qu'il va pas changer, même s'il va dire « ouais, c'est une aventure exceptionnelle ». Je pense qu'il a foncièrement pas les capacités de changer de personnalité pour l'instant, en tout cas de ce qu'il a dégagé après un épisode. Alors c'est peut-être un peu dur de dire ça aussi peu de temps, mais honnêtement, j'y crois pas du tout.
Pas se calmer pour autant, mais il va peut-être...
Au mieux, ça peut faire une Sam, c'est-à-dire un personnage un peu fort, même si Sam était quand même beaucoup plus doux, on va dire, avec les autres candidats. Mais ça peut faire un peu le même côté, un peu rédemption, personne qui sociabilise, etc. Mais j'y crois vraiment.
Tu me parles de Sam, moi, c'est un autre candidat qui me fait penser. C'est la Garde des Chefs, c'est Victor, dans un autre registre. Mais, ouais, mais le côté, moi, je ne vais pas... Enfin, pas de concession, quoi.
C'est un peu un mélange de Sam et Joseph, quoi. C'est un peu compliqué pour l'instant de dire quoi que ce soit.
Je m'appelle Mathieu, j'ai 29 ans, je vis en Corse. Je suis très impulsif, très très colérique. Quand je m'énerve, mon cerveau il se met off et mais ça fuse au niveau de ma bouche.
Oh, il y a un blessé quand même, hein.
Mathieu.
Mathieu, je me sens très très énervé là. Pourquoi ? Qu'est-ce que vous appréciez pas ?
J'apprécie pas qu'on hurle de joie comme ça, alors qu'il y a une fille qui a failli se casser, je sais pas quoi. Après, je comprends qu'on puisse gagner et tout, mais moi, je suis pas comme toi. Même nous, si on aurait gagné, jamais de la vie, on aurait hurlé. Je sais pas. Même si en face un type qui se massacre et je gagne l'épreuve, je vais être content, bien sûr, un petit truc, mais pas hurler comme ça. Ah, je l'aime. Vraiment.
Et je vous le dis, vous gagnerez sûrement, les gars, et vous verrez, ça fait vraiment du bien. Et vous ferez pareil, vous exprimerez votre joie, c'est sûr.
Un jour où vous gagnerez, vous comprendrez que.
Mon pote, la farandole, ça va être.
Que c'est compliqué à contenir autant de joie, quoi.
Alors, Il y a un truc. Je pense que Mathieu sait ce que c'est d'être belge.
Bah le elle s'est fracassée en deux, puis 30 secondes après, un peu de respect, c'est quand même incroyable.
Oui, c'est vrai.
Mais d'ailleurs, bon, ça, on en reparlera peut-être après quand on reviendra sur l'épreuve d'immunité. Parce que là, du coup, je voudrais qu'on passe à l'équipe rouge. On n'a quand même pas vu grand-chose. Ou est-ce qu'il y a des choses qui vous ont plutôt marqué chez l'équipe rouge?
Ouais.
Oui.
Arnaud.
Le roi de l'équipe rouge.
Alors, Arnaud, donc, qui est le candidat mosellan qui est maraîcher. Qui a vraiment un look, il est un peu trapu, il a les cheveux longs et surtout qui a l'air d'être passionné par la pêche. Donc, il court après des murènes, après des raies aussi. Vous, ça a l'air d'être un personnage qui vous a bien marqué.
Bah, moi, sur Arnaud, si j'ai quelque chose à dire, bon, déjà, il y a la terre chaude. Mais on sent qu'il est bon vivant. Et ça, c'est plutôt rafraîchissant parce qu'à côté de tous ces sportifs, il y a Arnaud qui est au milieu de l'eau avec un bâton et qui essaie de taper sur une raie. Et quelque part, on parlait de s'identifier. Et ben Arnaud, il y a ce côté un peu, je dirais pas identifiable en tant que personne, mais où on dit voilà, moi aussi je peux le faire.
T'as envie de taper des raies avec ton bâton ? C'est pas du tout.
Non, mais moi aussi je peux aller sur Koh-Lanta. Écoute, je fais ce que je veux avec mon bâton. Et non, mais oui, avec sa machette, il y a toutes ces scènes-là. Et puis, dans son portrait, il parle vraiment de lui comme quelqu'un de sociable et qui porte attention aux autres. Mine de rien, c'est un profil un peu différent. Il n'a pas dit oui, moi je suis là pour battre tout le monde. Et on sait que ces profils sociables, un peu à la Loïc de la saison dernière, c'est intéressant. Bon, je ne dis pas qu'Arnaud et Loïc, hein, on va encore me taper, mais c'est intéressant d'avoir quelque chose d'autre que TTC.
Aubin, toi par exemple, l'équipe rouge et puis le personnage d'Arnaud en tant que tel, t'en penses quoi?
Arnaud, nous on l'a appelé Thor toute la soirée. Moi j'ai adoré ses regards de feu pendant l'épreuve d'immunité. Et non, et mine de rien, cette équipe rouge, moi je la trouve plus sympathique que l'équipe jaune. Je sais pas, c'est visuel plus qu'autre chose parce que on n'a pas vu grand chose de des rouges, mais Arnaud, moi bizarrement, il me fait penser, personne n'était d'accord avec moi, mais Arnaud il me fait penser à Fabrice de notre saison, typique, alors pas physiquement, loin de là, mais je trouve dans le comportement, ben mine de rien c'est un personnage très atypique qui va attirer la sympathie, je pense, qui va se bouger sur le camp et sur les épreuves, et qui, mine de rien, je pense qu'Arnaud, il ira loin.
Ouais, je suis assez d'accord sur la dernière phrase. Je pense que, comme disait Wilson, il a un aspect, il a une bonhomie naturelle qui fait que tu as immédiatement envie d'être pote avec lui, et ça, c'est quand même un atout très fort dans le jeu. Et il dégage vraiment quelque chose de positif, peut-être plus que tous les joueurs, enfin, de mon point de vue. Et effectivement, il a l'air bon vivant, mais il a l'air aussi à l'écoute. Je pense que socialement, il ne sera pas dégueulasse, clairement. Et il a un profil super intéressant qui détonne un peu des sportifs plus lambda de la saison. Donc, c'est vraiment un personnage à suivre. Et en plus, s'il nous gâte avec ses petites perles, comme il a fait là, avec la chasse et tout, enfin, ça peut être incroyable. Donc, vraiment que du positif pour Arnaud. C'est peut-être un petit bémol sur l'équipe rouge de manière générale, où c'est vraiment lui qui ressort et les autres sont un peu effacés derrière. Bon, après, c'est très tôt encore, ça va changer, mais clairement, lui, il domine pour l'instant dans nos cœurs, en tout cas.
Alors, autre personne aussi de l'équipe rouge qu'on a un petit peu vue, c'est Candice, puisqu'elle a donné pas mal de bons conseils, mais elle s'est aussi beaucoup mise en avant par rapport à son équipe. Alors vous, pareil, je voulais avoir votre sentiment sur Candice. Donc Candice qui a 25 ans, qui vient de Saint-Etienne et qui est, je crois, instructrice de survie.
Je m'appelle Candice, j'ai 25 ans, je suis instructrice de survie.
Candice en avait un petit peu marre d'être toute seule sur le feu. J'ai déjà réussi à faire du feu avec cette technique, mais sur le continent avec différents outils. Voilà. Trois là, on va y arriver comme ça.
Allez, y est là.
Vous en sortez ?
Oh là 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 là.
Le problème que vous allez avoir, il y a pas mal d'air qui passe, ça peut pas monter en température, ça sert à rien. Et ça va refroidir tout ce que vous allez faire en sillon. C'est pour ça que je le mettais sur la feuille, pour que ça épouse le sol. Il faudrait vraiment que ce soit plat du plat.
L'inspectrice a fait des bonnes remarques. Bon. Visiblement, on n'est pas prêt de le faire. Candice, elle est venue nous donner des conseils, donc je pense que ça part d'une très bonne intention. Mais quand on s'attelle à quelque chose depuis un petit moment, ça met un petit coup au moral.
Alors, concernant Candice, perso, ce que j'ai pas mal apprécié, c'est que souvent, ce genre de profil pro-survie qui réussit les épreuves, qui réussit à faire le feu, hein, c'est pas elle qui fait le feu directement, mais c'est grâce à ses conseils. Et généralement, pour ce genre de personnage, on a une éloge constante, que ce soit de la part des autres candidats, mais aussi dans le montage. J'ai trouvé ça plutôt nuancé concernant Candice. Donc, ça peut donner des indices comme quoi peut-être que cette dynamique sera importante dans le jeu, peut-être que c'est anecdotique, on n'en sait rien. On découvrira ça lors des prochains épisodes. Mais ce côté nuancé, j'ai pas mal apprécié et ça fait que justement, Candice est une des personnes qui ressort un peu côté rouge avec Arnaud, évidemment, même si Arnaud, c'est un niveau au-dessus. Mais Candice, voilà. Il y a dans le channel Le Feu de Camp, qu'on peut lire, il y a plusieurs membres ADF qui nous parlent de Maxime de la Guerre des Chefs. Et je trouve la comparaison assez juste, car on est aussi dans ce portrait « je suis là, je suis pro de la survie, je peux donner des conseils », mais ça peut taper sur les nerfs des personnes.
Après, est-ce qu'on n'est pas un peu le fait que la saison de la Guerre des Chefs est finie? Parce que Maxime, au début, dans sa tribu bleue, il était très apprécié.
Je prenais quand même quelques critiques de la part de Cindy et Frédéric dans mes souvenirs, même s'il était bien placé, c'est sûr.
Oui. Mais bon, voilà. Donc ici, on a quand même entendu des critiques aussi envers Candice, et qui était dans sa propre équipe, ne serait-ce que le fait qu'elle était toujours là à dire les choses. Donc.
Elle a quand même un côté un peu plus sympathique que Maxime.
Son profil, je pense qu'il est quand même. Je sais pas si elle est plus sympathique ou pas, mais elle peut avoir le même chemin, comme elle peut encore prendre un tout autre chemin. Et d'ailleurs, le montage, de toute manière, faut s'en méfier. Rien que la saison dernière, on a été un peu surpris entre le montage des premiers épisodes. Je pense qu'on pouvait pas deviner la victoire.
Donc, il y a Arnaud qui dit dans le chat que Candice et Maxime de la Guerre des Chefs se connaissaient avant que Candice ne participe à Koh-Lanta. Ça, c'est un truc qu'il faut savoir, parce que du coup, c'est dans le petit milieu des instructeurs de survie, les deux se connaissaient déjà, donc c'est marrant de voir qu'il peut y avoir un petit lien entre eux. Aubin, toi, pareil, Candice, t'en as pensé quoi?
Alors, le personnage de Candice, en soi, moi, il m'a clairement rappelé Maxime. Après, ça m'a beaucoup rappelé, moi, par exemple, quand on est arrivé chez les Bleus, on a dispersé un peu les rôles et j'étais à la cabane avec Sébastien. Et donc la cabane, on l'a fait avec Seb à deux, et Seb le prenait très très à cœur et il rabâchait tout le temps. Et alors il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Et à NITV, je l'avais dit. Moi, j'avais dit, je trouve ça super de faire la cabane avec Seb, mais il prend trop à cœur. Et mine de rien, je pense que c'est un peu ce qui se passe avec des profils comme Maxime ou Candice, c'est que dès qu'on sait faire quelque chose, du moins qui peut être utile, c'est des profils qui peuvent pas s'empêcher de le faire. Par exemple, on l'a vu, Candice, elle a voulu masquer qu'elle était instructrice de survie, mais elle a pas fait pour tous les candidats. Elle a bien dit qu'elle avait dit à certains candidats et pas à d'autres. Et je trouve que déjà, stratégiquement, c'est se tirer un peu une balle dans le pied, parce qu'il suffit que deux personnes parlent ensemble en disant « mais tu savais qu'elle était instructrice de survie » et que l'autre, elle dise « ben non, moi, elle m'a pas dit ça ». Et je trouve que c'est déjà partir dans le mauvais sens. Donc, le profil de Candice, en soi, moi, il m'a pas plus chauffé que ça.
Bah oui, et c'est presque dommage, parce qu'on l'entend bien dans l'extrait, pour moi, le plus compliqué, c'est quand même la réaction du mec qui dit « ouais, il y a l'inspectrice parce qu'il est un peu vexé », que elle qui vient donner des conseils qui sont peut-être un petit peu too much éventuellement, mais bon, qui partent d'une bonne intention et qui au final réussissent quand même à l'objectif, c'est-à-dire qu'ils ont réussi à faire le feu grâce à elle, en grande partie, donc... Bon, je comprends qu'il soit un peu vexé, mais j'espère que ça ne lui retombera pas dessus et qu'elle réussira à comprendre qu'effectivement, peut-être qu'il faut qu'elle fasse un peu profil bas, même si c'est dommage, mais c'est comme ça pour continuer à exister. Mais moi, ça ne m'a pas choqué. Je n'ai pas trouvé ça ni trop présent, ni trop je sais tout, comme avait cette tendance un peu Maxime, par exemple. Donc, à voir ce que ça va donner, mais espérons pour elle que ça continue.
Alors, on va passer tout de suite à l'épreuve d'immunité, donc qui était une épreuve d'équilibre. Et un des moments, je crois, vraiment les plus choquants, c'est la pauvre Elodie qui tombe vraiment le pubis, enfin le sexe, juste sur la poutre et qui tombe extrêmement violemment et qui finit par être évacuée. Et voilà, je pense ici, bon, on a personne autour du micro n'a de vagin ni de vulve, mais ça doit faire extrêmement mal. Et franchement, je pense que tout le monde a eu mal pour elle. Voilà, c'était un des moments choquants, même que, enfin. le cri de Vincent. Enfin, je sais pas si Arnaud, toi, tu as le cri de Vincent justement quand il voit la chute. Si tu peux nous le mettre. Et sache quoi, c'était Arnaud qui l'avait dit sur Twitter. Je pense que tout le monde s'est plus ou moins tenu l'entrejambe en voyant l'image, tellement c'était violent.
Elodie, qui d'ailleurs, ça a été vu sur Twitter, moi je ne l'avais pas vu au moment, mais qui a un tatouage sur le bras, donc c'est quand même assez exceptionnel.
Ouais, pour le coup, ouais, non, là, c'est ce qui est plutôt ironique, ouais. Et donc Elodie, qui finit par être un petit peu évacuée, visiblement, bon, il n'y a pas eu de grosses séquelles, juste, ça l'a juste coupé dans son élan. Et dans l'équipe jaune, en fait, Sylviane finit par... voilà, par faire plusieurs chutes. Elle a eu mal au dos, justement, parce que, à cause du choc un peu psychologique. Et, comme on l'a entendu, donc, les jaunes perdent l'épreuve, ce sont les rouges qui la gagnent. Et on l'a vu à la réaction de Mathieu, bah, ça n'y a pas du tout fait plaisir que les rouges exultent. Et alors, vous, cette épreuve, pareil, est-ce que vous avez des choses à en dire? Est-ce que c'est, voilà, est-ce que vous avez apprécié tout simplement cette épreuve? Et est-ce que vous avez, des commentaires à faire sur tout ce qui s'est déroulé pendant cette épreuve.
Du coup, je disais, l'épreuve en elle-même, elle ne m'inspire rien de négatif ou de positif. Non, c'est une épreuve comme une autre, équilibre, etc. Moi, ce qui m'a gêné, c'est qu'au moment de l'évacuation d'Elodie, les rouges, je crois, ont le choix par rapport à la personne qu'ils peuvent retirer de l'épreuve. Et pour moi, ça fausse totalement l'épreuve parce qu'ils retirent leur élément faible qui, pour le coup, aurait pu ralentir les rouges, c'est-à-dire Magali qui avait beaucoup de mal. Alors que les jaunes à côté, ils sont obligés de garder Sylviane qui, elle, galère. Alors que, et du coup, on se dit que bah, si la chute elle avait eu lieu du côté des rouges, les jaunes auraient pu retirer Sylviane. À ce moment-là, c'est peut-être les jaunes qui auraient gagné l'épreuve. C'est toujours un aspect que je trouve dommage de favoriser l'équipe qui... J'avais l'impression que ça faisait un peu double sanction pour les jaunes.
Moi, là, sur l'épreuve, je suis assez d'accord avec ce que dit Jade, c'est vrai. Mais même avant ça, je ne la trouve pas... Bon, c'est vraiment... quatre plateformes, quatre bouts de bois et on avance. Et du coup, je la trouve pas impressionnante. Enfin, c'est une première épreuve. Moi, j'aime bien quand les premières épreuves. Il y a l'épreuve d'avant, mais c'est la première épreuve d'immunité. Quand elles sont un peu impressionnantes, parce que c'est ça aussi qui met l'accent sur la saison, sur ce qui va arriver. Et il y a deux critiques que j'ai. Enfin, il y a cette critique que j'ai déjà faite. Et moi, l'autre critique que j'ai à faire, c'est pourquoi est-ce qu'on fait ça sur l'eau? On n'est pas très haut. Je veux dire, tomber sur du sable, c'est pas très dangereux. Et on glisserait peut-être un peu moins et ça aurait peut-être évité ce genre d'accident. Parce qu'on sait tous à quel point on n'a pas envie de voir les joueurs partir sur civière ou partir pour des raisons médicales. Moi, j'ai pas trop compris l'intention. Et du coup, j'ai pas pris tant ça de plaisir à suivre, même malgré ce qui arrivait, l'épreuve. Parce que bon, dès le départ, j'ai l'impression que les rouges...
Ouais, j'ai à peu près le même sentiment. C'est pas une épreuve exceptionnelle. Pourtant, c'est dommage parce que l'aspect collectif et besoin et nécessité d'être très unis et très ensemble aurait pu être intéressant pour une première épreuve collective. Et ça tombe un peu à plat parce que bon, c'est un peu du vu et revu. Ça a souvent été fait en individuel, certes, mais je trouve que ça crée pas grand-chose. Donc bon, c'est un peu décevant, mais après, ils ont tout donné sur la première épreuve. Donc admettons.
Il y a Jérémy, je crois, Jérémy de la saison du combat des héros qui avait posté sur Twitter un vidéomontage où on voit justement Jérémy faire à peu près la même chute et ensuite on voit Elodie faire la même chute. Donc on se dit que justement la production aurait pu prendre des précautions, surtout qu'il y a une tendance lors des dernières saisons à avoir des évacuations médicales lors des 3 à 6 premiers jours. Souvent on a 1 à 2 candidats, on a souvent de nouveaux candidats qui arrivent. Je trouve ça dommage. Enfin, pour le coup, on se dit que les premiers jours, ils servent un peu à rien parce que le premier éliminé a des chances de revenir, etc. Et comme le dit le chat, il y a Isabelle d'une autre saison All-Stars qui avait dû quitter le jeu au bout de 4 jours également. Et le pire, c'est qu'Isabelle était revenue sur abandon médical. Donc, peut-être prendre plus de précautions par rapport aux épreuves pour éviter des blessures aux candidats.
Oui, surtout que ça me semble pas. Voilà. Enfin, il n'y a pas grand-chose à changer, je pense, pour que ce soit plus safe. Donc, pour que l'épreuve soit quand même fun et quand même aussi exigeante, mais tout en essayant de juste la rendre moins dangereuse. Le danger rend pas service là-dessus.
Enfin, on va enchaîner tout de suite avec les discussions stratégiques donc chez les jaunes.
C'est que Mathieu, tu votes Elodie.
Non, c'est pas des jeux, que je vote pas.
Tu votes pas Elodie?
Non. Je ferai pas de coup d'autre. Elodie, t'as l'air de me parler et tout. Je dis qu'est-ce que tu vas faire, mais je fais pas et tout. Je dis, moi, c'est simple, je ne suis pas
elle
contre.
Elle t'a dit qu'elle votait quoi?
Elle m'a dit. Et à tout moment, il écrit Mathieu sur le papier.
Non, frère, comme je t'ai expliqué, les gars, vous prenez pas la tête pour moi. Moi, j'ai ma ligne de conduite, c'est tout, tu vois. Après, tant pis pour moi. Hein. Moi, je sais que je pourrais me réveiller dans une glace.
Oui. Donc, il faut qu'il y en ait un autre qui va te donner.
Vincent.
Vincent, viens voir, s'il te plaît.
T'as raison.
Moi, je, franchement, j'aurais pas aimé dire.
Ah, mais donc, on va tous mettre le cigane.
On prend un pelu, c'est glissant.
Putain.
Y'a pas une personne qui veut voter contre Elodie?
C'est une sportive, elle mérite pas au moins, non. Moi,
franchement, elle, elle, ouais, elle mérite pas.
Ouais, mais non,
je te jure, Elodie,
elle mérite pas. C'est explosé, elle est revenue comme une concurrente.
Non, moi, je peux pas mettre Elodie.
Vincent, il veut pas du tout voter contre elle non plus. On est bien avec elle, je vais pas aller faire la farfalle à mettre Elodie et lui expliquer après pourquoi. Si elle me demande pourquoi, y'a aucune raison.
Putain, vous allez m'obliger à voter contre Elodie.
Je crois. À mon avis, c'est Thomas qui va être obligé de voter contre Elodie. Pas forcément de gaieté de cœur, mais parce que les autres ne veulent pas le faire. Je pense que ça le gêne évidemment déontologiquement pour l'instant, mais il va le faire parce qu'il se dit que c'est la meilleure solution pour préserver l'équipe.
Ouais, toi, c'est beau, moi je peux me regarder dans une glace.
Pas de miroir, ça. C'est...
Comment tu veux stratégiser avec un comme ça?
Non, mais c'est compliqué, oui. On lui donne la bonne solution, moi ça me tue parce que vraiment, genre, il dit juste, c'est pas contre elle, c'est juste pour te sauver. Et lui, il est là, non, t'inquiète, je gère.
Alors, du coup, c'est vrai que les votes se dirigeaient donc en partie vers Sylviane et aussi contre Elodie, histoire de. Alors, j'ai vu dans le chat tout à l'heure que c'est Thomas qui dit qu'on, en gros, de splitter les votes, c'est-à-dire de diviser les votes pour contrer un éventuel collier de Sylviane, parce que donc Shanice et Vincent, donc, qui avaient chacun un vote contre eux, n'étaient clairement pas en danger. Donc ça se jouait vraiment entre les deux. Et moi, la question que je me pose, c'est si vous avez compris, parce que moi, pas forcément, pourquoi Elodie a-t-elle été visée par des votes? Pourquoi Elodie, justement, visée en cas de split?
Pour moi, Elodie, elle s'était posée en tant que deuxième candidate de l'équipe en danger, peut-être à cause de sa blessure. On a peur que justement, elle soit évacuée médicalement sur un prochain tour. Et surtout... elle a aussi un vote contre elle, donc c'est beaucoup plus simple de diviser les votes contre une personne qui a déjà un vote que contre une autre personne, et puis ça permet de moins froisser. C'est aussi plus simple pour lui expliquer ce qui s'est passé au cas où, justement, il n'y a pas de collier et que c'est bien Sylviane qui sort. C'est totalement logique de lui dire que voilà, il y a eu la blessure, etc., et puis le collier de Sylviane... Justement, je pense que Elodie, c'est pas le genre de personne qui va s'insurger et qui va plutôt comprendre et se dire je dois prouver des choses à l'équipe. Donc pour moi, c'est plutôt logique que les votes se détournent contre elle.
Moi je trouve de la part de Mathieu, c'est bête de refuser ce moment-là, parce que comme vous disiez, Elodie,
oui,
de toute façon,
c'était la facilité.
Mine de rien, même si elle avait eu un vote en plus, c'est sûr qu'une personne qui vote contre soi, après on l'a dans le viseur, mais je pense pas qu'elle aurait eu un gros, alors après on peut se tromper avec la suite de l'aventure, mais qu'elle aurait eu les épaules pour pouvoir rediriger d'autres personnes vers Mathieu, vu qu'on le voit, il y a clairement une alliance qui se dessine au niveau des garçons, et mine de rien, je crois qu'ils sont ils sont en majorité dans leur alliance, si je dis pas de bêtises. Donc, je pense pas que Mathieu aurait été en danger en mettant une voix contre Elodie. Et mine de rien, après, il aurait très bien pu expliquer, bon, ben voilà, on avait peur que Sylviane ait eu un collier. Et effectivement, si jamais ça lui serait retombé dessus en disant, bon, ben, de dédouaner un peu le truc en disant, bon, ben voilà, on était tous d'accord pour que je mette le nom de Elodie, parce que ça arrangeait tout le monde que ce soit moi qui le mette. Et je pense qu'il aurait pu peut-être s'en sortir comme ça.
Après, tant mieux pour lui. Il n'y a pas eu de collier et les votes ont bel et bien été dirigés contre Elodie. Donc, même s'il y avait eu un collier de Sylviane, il n'aurait pas été en danger. Ce qui n'a pas forcément été le cas dans ta saison, Aubin, parce qu'on a vu coup sur coup deux candidats se faire éliminer avec un collier qui annule tous les votes, sauf le vote de la personne. Et du coup, un vote aurait pu suffire pour sauver ces personnes-là. Et c'est quelque chose qu'on avait beaucoup reproché aux candidats l'an dernier, que ce soit à l'équipe de l'Ouest, mais également à Mathieu, qui aurait pu potentiellement, je ne sais pas, mettre le nom de Sébastien ou d'Ava. Il a peut-être été trop confiant. Derrière, on a aussi eu, je crois, c'est des jeunes de l'Ouest qui n'avaient pas mis Marie-France à côté.
Là, au moins, on se dit, il y a peut-être cette réflexion par rapport au collier. C'est peut-être dû à leur vision de la dernière saison. Je ne sais pas si ça s'est chevauché ou pas. Mais pour
le... ouais, ils ont vu ce qui s'était passé.
Ils ont dû voir ce qui s'était passé. Et du coup, ils ont dû avoir peur de ce genre de scénario. C'est déjà cool. Ça montre que le jeu évolue. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est déjà pas mal.
Ah, mais clairement. Et moi, en plus, je l'avais reproché à Mathieu après. Et Orange aussi. C'est le fait de ne pas connaître le... De mal connaître cet aspect-là du jeu qui fait que mais clairement ça peut mettre tout le monde en danger. Ça peut mettre tout le monde en danger et pour moi c'est logique de devoir splitter dans tous les cas, même sur une alliance. Et si ça doit mettre là pour le coup Thomas ou Mathieu en danger pour plus tard, après il faut pouvoir compter sur l'alliance sur laquelle on a créé. Mais bon, c'est toujours compliqué à Koh-Lanta de compter sur les autres.
Bah, d'ailleurs, question que je voulais te poser, alors que soit, j'imagine, vous en avez parlé ensuite, que ce soit avec les oranges, même avec les bleus, pourquoi justement il n'y a pas eu cette volonté de mettre au moins un vote pour contrer un collier ? Est-ce qu'on t'a répondu à ça ?
Ah, mais ils connaissaient pas la règle, clairement. Personne ne savait que, en mettant une voix de plus, ils n'y avaient pas du tout pensé. Ils n'y avaient pas du tout pensé et... Et mine de rien, s'ils y avaient pensé, c'est Ava qui sautait, parce qu'on en a reparlé après le jeu. S'ils y avaient pensé, c'est Ava qui partait. Et clairement, en plus, moi, j'ai fait un jeu d'acteur qui laissait penser que j'avais pas le collier. Il y a ça aussi. Si j'avais été un peu trop confiant sur la longueur de la journée, je pense qu'ils auraient peut-être réfléchi à une méthode. Mais là, avant le conseil, j'étais dos à tout le monde et je faisais semblant de pleurer sur la plage.
C'est dommage qu'il n'ait pas mis au montage. Ça.
Donc,
j'imagine.
Ouais, il y a plein de choses qui ne sont pas passées avec le collier, mais voilà, en fait, il y a tout un jeu d'acteurs qui faisait que eux, ils se doutaient pas. Mais même au conseil, je faisais semblant d'être dégoûté. Mais il y a tout ce côté-là aussi qui fait qu'ils se doutaient pas du tout que j'avais un collier.
Mais c'est rigolo parce que Brice le fait un peu plus tard aussi dans la saison et on le voit peut-être un peu plus au montage d'ailleurs. Mais c'est cool parce que c'est la preuve que ben c'est un jeu finalement du côté acteur. Et je trouve ça un peu fou et ils le disent ici dans le live que ne pas y penser alors que enfin ça fait quand même quelques saisons de Koh-Lanta que ça existe et généralement dans les portraits il y a beaucoup de je suis fan de Koh-Lanta depuis XY saison et pas penser juste au fait qu'un vote qui vote ailleurs qui sert à rien entre guillemets en cas de non collier c'est quand même basique, j'ai l'impression que c'est le béaba, mais du coup c'est un peu,
mais le problème c'est qu'aujourd'hui c'est comme quand moi je rencontre des gens qui me reconnaissent et qui me disent je suis fan de Koh-Lanta et qui connaissent que Claude était ouvert.
Ah oui.
Et ce côté-là, tu le retrouves même chez les candidats.
Ah oui, okay.
Ouais, c'est vraiment, donc, vraiment que la vision épreuve, dépassement de soi, et c'est-à-dire tout l'aspect jeu qu'il peut y avoir à côté. Ils connaissent au final assez mal le contexte, quoi.
Oui, mais clairement parce qu'ils connaissent pas le jeu, parce qu'ils n'ont pas regardé toutes les saisons, parce qu'ils n'ont pas. C'est ça le.
On en a quelques.
C'est ça le souci aussi, mais ça fait aussi partie de Koh-Lanta. C'est bien qu'il y ait des gens qui connaissent très très bien le jeu. Et c'est bien qu'il y en ait qui ne le connaissent pas trop non plus. Parce que mine de rien, c'est ce qui fait que ben, des candidats comme moi, on peut s'en sortir. Donc, et c'est un peu comme au poker. Au poker, pourquoi le poker marche ? C'est parce qu'il y a des joueurs qui sont très très bons et des joueurs qui sont beaucoup moins bons, qui font que ben, ça permet à tout le monde de trouver un but commun. Et à Koh-Lanta, c'est exactement la même chose. Mais heureusement qu'il y a des gens qui connaissent pas le jeu par cœur.
Mais oui, mais j'avais l'impression, par exemple, que pour ta saison, des gens qui connaissaient vraiment bien le jeu, il y en avait quand même assez peu. Il y avait Adrien, mais qui du coup a voulu, a eu un jeu peut-être beaucoup trop voyant. Mais des gens vraiment qui connaissaient vraiment bien le jeu, qui connaissaient vraiment bien le jeu stratégique, j'avais l'impression que dans ta saison, c'est peut-être la différence avec ce qu'on a vu. Bon, c'est qu'un épisode, mais j'avais l'impression que beaucoup de joueurs de ta saison avaient quand même assez peu cet aspect-là et que du coup, ça donnait peut-être des gens qui sont pas forcément très joueurs, des gens très sympathiques à voir à l'écran, mais pour l'aspect joueur, on reste peut-être un peu plus sur notre faim.
Alors, moi, je l'ai ressenti de suite. Je l'ai ressenti de suite en discutant avec les autres. Mais
Je pense que c'est un peu une volonté aussi de la production au moment du cast. Un peu comme cette année, ils ont pris beaucoup de sportifs. Je pense que sur notre saison, ils ne voulaient pas des joueurs qui connaissent trop le jeu non plus. Sur la, pas sur tous les joueurs, hein, je parle sur la majorité. Parce que je sais même pas pourquoi. Peut-être justement pour éviter tous ces... pour éviter oui ou non, mais d'avoir justement des Mathieu qui peuvent sortir sur un collier bien joué. Je vais peut-être mal jouer, mais que sur un collier joué comme je l'ai joué ou une Diane par exemple. Donc si on avait eu des joueurs qui connaissaient trop le jeu, le destin, que ce soit le mien ou celui d'autres joueurs, il aurait été totalement différent. Donc je pense que le fait d'avoir pris des joueurs qui connaissaient pas le jeu par cœur, c'était une volonté de la production, clairement.
Bah oui, merci, parce que ça, c'est intéressant. Surtout, là, comme à Cole, j'ai dit tout à l'heure, quand on voit ce premier épisode avec des gens qui split, avec des gens peut-être qui jouent, et quand on voit le contraste avec la saison dernière, bah c'est un contraste qui est extrêmement frappant, quoi. Et on se dit, putain, c'est pour ça que l'an dernier, ça nous a plu la saison dernière, ça il n'y avait pas de souci. Mais c'est vrai qu'on pouvait reprocher peut-être des candidats qui ne prenaient pas trop de risques, ou du moins qui pouvaient être parfois un petit peu lisses.
Bon, après, il y a aussi des candidats qui connaissent le jeu par cœur et qui sont nuls. Hein. Évidemment, on embrasse Amad.
Je cautionne pas tout le monde.
C'est une blague.
Je me désolidarise.
Justement, en parlant d'Amad, il y a un candidat, en voyant son portrait, on ne peut pas s'empêcher de se dire on connaît un peu ce profil. Mais c'était juste en se basant sur le portrait. Évidemment, je parle d'Aurélien, qui, dans son portrait, dit vouloir jouer, s'il faut trahir un moment, il n'hésitera pas. Il sort une expression, la fin justifie les moyens, je crois. Et du coup, on se dit, voilà, on a peut-être le stratège assumé de la saison. C'est un profil qu'on revoit assez souvent. Et encore une fois, je ne peux pas m'empêcher de penser que c'est toujours le même profil de gens, c'est-à-dire le mec qui est bien dans son métier, qui est dans la trentaine, c'est toujours un homme qui est le stratège assumé. Et pour le coup, moi, j'aimerais bien un peu revenir sur le profil d'Aurélien, qui a aussi été un candidat important de ce premier épisode, forcément parce qu'il y a ce rôle de leader qui est limite forcé sur lui. On a cette introduction à l'épreuve où il est plutôt bon. Puis on a les tensions avec Sylviane qui font que justement on voit pas mal Aurélien lors de ce premier épisode. Mais perso, ce que j'ai bien aimé avec Aurélien, c'est qu'on n'a pas eu ce côté stratège qui a été montré directement, comme a pu le faire Adrien ou Amad. Après, Amad a été pas mal forcé par ses performances sportives. Mais pour le coup, Aurélien, on ne voit pas trop directement ce côté stratège dans le jeu, même si on le voit dans le portrait. Et donc, je pense qu'on peut être plus optimiste pour Aurélien que pour, par exemple, Adrien. Après, voilà, il peut peut-être se faire éliminer tôt, il va peut-être aller au bout, ça, on le sait pas. Mais perso, je suis plus optimiste pour Aurélien.
Pareil, donc est-ce que vous avez quelque chose à dire? Enfin, vous êtes d'accord sur Aurélien à ce sujet?
Ouais, Aurélien, il a le profil caméléon. Il peut très bien se faire passer pour un joueur pro-méritant si son équipe prend cette direction-là, tout en gardant... l'avantage de la stratégie sur les autres, parce que chose que pouvait peut-être pas, que moi je pouvais peut-être pas avoir, ou Amad non plus, c'est que si l'équipe prend une stratégie pro mérite, ben clairement on n'était pas dedans, quoi. Alors que là lui, Aurélien, je pense qu'il a toute sa place avec son statut de capitaine qu'il prend à cœur, et en plus de ça, ben sur les épreuves, mine de rien, il a l'air bon aussi, donc je pense que c'est un bon candidat caméléon, un peu comme un Claude finalement.
Du coup, au conseil, donc c'est Sylviane qui a été éliminée avec 7 voix contre 4 et une voix contre Shanice et une voix contre Mathieu. En fait, Sylviane, ce qui est dommage, c'est que déjà, donc socialement, ça se voyait que bon, elle avait un petit peu de mal à s'intégrer, et surtout, c'est qu'elle savait très bien qu'elle était dans le... En gros, elle était visée pour le vote, mais elle n'a pas cherché à sociabiliser avec les gens de son équipe. Elle a directement été chercher le collier dans la forêt. Est-ce que ça, pour vous, selon vous, c'est une erreur? Est-ce qu'elle aurait peut-être dû essayer de sociabiliser peut-être davantage? Ou est-ce que c'était vraiment pour vous? Est-ce que c'était cuit pour elle?
Pour moi, c'était cuit. Il fallait qu'elle cherche le collier. De toute façon, ça se voit que c'est pas une personne qui peut sociabiliser, quoi. On le voit quand elle est sur la cabane, elle a fait que se plaindre. Forcément, ça a dû taper sur les nerfs des gens. T'arrives, t'as envie d'être optimiste. Il y a quelqu'un qui prend des initiatives. J'ai envie de dire, la première chose que tu fais, c'est écouter cette personne, même si elle peut avoir raison ou pas. Apporter directement cette note pessimiste, ça a dû lui faire défaut. Là, l'épreuve, ça lui a fait encore plus défaut. Justement, comme Icaro le dit dans le channel, elle a fait exactement ce qu'il ne fallait pas faire, c'est qu'elle n'avait aucun social. Sur les épreuves, elle n'était pas bonne. Niveau stratégique, elle ne pouvait rien faire, quoi. Et je pense aussi que cette notion des armes secrètes qui a été évoquée après l'épreuve, ça lui a fait dire que peut-être elle avait peut-être plus de moyens de trouver un avantage qui peut la sauver qu'un simple collier. Bon, perso, je trouve pas sa sortie regrettable. C'est un personnage qui, joue un rôle comme un autre lors du premier épisode, mais qui nous aurait agacé plus qu'autre chose dans la suite. Un peu comme Marie-France lors de la saison dernière. Voilà, pour une première élimination, c'est sympathique, mais ensuite elle reste et ça devient un peu plus agaçant à voir, si j'ai envie de dire.
Là, attention, attention.
Attention, il y a son fan, mais...
Il y a le fan club. Ouais, après, Marie-France a su un peu évoluer et puis mettre un peu d'eau dans son vin, et au final, c'est vrai que c'est devenu un personnage pas forcément inintéressant. Je suis pas sûr que ça soit le cas pour Sylviane, même si elle reste, et a priori, c'est pas le cas, sauf surprise. Mais je pense qu'on a très vite fait le tour et que c'est pas une erreur de casting, j'irai pas jusque là, mais on l'a quand même vu très vite arriver avec ses gros sabots sur l'élimination. Il y a aucune surprise et c'est tout à fait logique. Donc c'était une très bonne première élimination pour faire connaissance, mais je suis pas sûr qu'elle ait autant de capacité que certains candidats qui soient partis aussi vite.
Oui, et puis de toute façon, il faut bien un premier éliminé. C'est pas non plus hyper original, mais on va pas s'attendre non plus à ce que d'un coup. Ça veut éliminer les plus forts dès le premier conseil. Enfin, il y a quand même la notion de gagner des épreuves derrière. Et Sylviane a aussi pâti de sa très mauvaise performance à l'épreuve.
Et pour le coup, c'est pas quelque chose qui est à proprement parler spécifique à Koh-Lanta. Hein. Dans toutes les émissions étrangères et internationales, ce profil, il est aussi visé au premier tour. C'est normal.
Bien sûr. Après, des fois,
qui sont à la plus à ramasse socialement et dans les épreuves aussi, donc forcément, ça fait une cible toute tracée. On veut pas s'exposer. Hop, on met ce nom-là, comme Aubin l'avait dit au début du podcast.
Totalement, le côté pas se mouiller. Et puis c'est important de pas se mouiller parce que surtout dans un, il y en a certains qui peuvent déjà être trop visibles, pas trop se mouiller. C'est aussi le moyen de passer sous le radar et d'arriver plus loin. Donc c'est pas fou. Enfin, c'est parfois un peu chiant à regarder parce qu'on sait qu'il va être éliminé dès le départ. D'ailleurs, au niveau des séquences, on a eu très peu de séquences des jaunes après l'épreuve. C'est bien qu'il n'y ait pas grand-chose à y faire.
Ça permet d'avoir Mathieu la semaine prochaine. Écoutez, moi, je suis très heureux.
Et alors, mine de rien, le first boot chez les... Le first boot chez les jaunes était assez évident. Et si ça avait été les rouges, moi, je le trouve beaucoup moins...
Oui, c'est vrai, on n'arrive pas à savoir qui serait susceptible de partir en cas de conseil chez les rouges. Ouais.
Magali, sur cette épreuve-là, cette épreuve-là, je pense que ça aurait été la cible. Après, ce qui est cool, c'est qu'on aura sans doute des épreuves différentes dans le style. Peut-être que Magali s'illustrera plus dans une épreuve où il faut du mental, où il faut de la résistance, parce que c'est une coach sportive. Peut-être qu'elle a une résistance qui est plus importante que d'autres personnes. Donc, ça dépend des épreuves, évidemment. Après, je pense que s'ils avaient perdu cette épreuve-là, ça aurait été Magali. Je suis content qu'il n'ait pas perdu l'épreuve parce que potentiellement, par la suite, on pourrait avoir plus de suspense.
Mais d'ailleurs, pour reparler de Mathieu, là, je pensais à ça. Vu qu'on sait qu'il va dégoupiller assez facilement, est-ce que vous pensez que ça peut être une bonne stratégie des roues, justement, de lui mettre la pression et de le chambrer pour qu'il pète un câble et que ça puisse mettre la zizanie chez les jaunes ?
En vrai, ça serait drôle à voir, mais je pense pas qu'ils auront cette idée.
Moi, je pense que c'est possible. On a vu Adja la saison dernière être capable de provoquer et d'entrer dans la tête de quelqu'un. Et avec autant de sportifs, les sportifs, ils ont ça en tête. Les sportifs, sortir l'autre joueur en face de lui, de ses gonds, c'est juste naturel. Donc,
après, Adja fait un sport collectif. Et je pense que c'est aussi là une différence. Cet aspect-là, je pense que c'est beaucoup plus connu dans les sports collectifs que, par exemple, dans un sport athlétique où. Après,
je pense que c'est une question de sport de duel, quoi. Plus que collectif. Genre, le tennis, c'est pas collectif, t'auras ça. Je pense que c'est plus une question de d'affrontement direct. C'est vrai qu'une prof de Zumba aura moins tendance
à... Attention aux profs de Zumba. pour être surpris.
Du coup, je vais demander, on va poser 2-3 questions à Aubin donc sur sa précédente aventure sur les quatre terres. Donc, on va vous poser des questions dans le chat et puis on lui posera. Alors, allez-y, on vous laisse quelques questions. Icarou qui dit forcément, est-ce que Carole s'est vraiment foutue à poil ?
Non. Non, Carole, elle s'est pas foutue à poil, mais c'est vraiment quelque chose qui est resté, ça, c'est impressionnant. Je pensais pas du tout que ça resterait. Quand j'ai vu la scène devant moi, ça me semblait lunaire. Moi, je regardais ça, mais je me suis dit, mais j'espère que ça sera jamais montré, ce passage-là. Et je pensais pas que ça resterait autant dans la tête des gens, en fait.
Bah, je crois qu'au niveau de Carole, c'est à peu près la seule chose qui est restée, parce que sinon, elle a pas été super mémorable.
Alors, moi, j'ai beaucoup de gens qui m'ont dit qu'on aurait rêvé de la même scène avec Lola. J'avais reçu beaucoup de messages comme ça, qui m'avaient fait beaucoup rire. Mais après, c'est sûr que Carole, sur cette scène-là, moi, c'est magique. C'est magique. Mais après, c'est ce qu'elle disait, c'était que des mots. Et de toute façon, elle n'allait pas le faire non plus. Mais mine de rien, elle était bien partie pour.
C'est vrai. Et d'ailleurs, question de Valentin, est-ce que tu sais pourquoi elle s'en est prise à Alix ?
Nous, on n'a rien compris. Je vais vous expliquer comment ça s'est passé. Donc, on a fait notre pseudo conseil avant le conseil. Chose que moi, j'étais pas du tout pour faire ça, mais bon. Donc, du coup, on fait notre pseudo conseil. Donc, Carole acquiesce et nous dit bon, ben très bien. Ben, écoutez, je vais partir dans la forêt. Elle est partie dans la forêt, on s'est dit, elle va chercher un collier. Et elle revient une demi-heure après, comme une balle. C'était impressionnant à voir. La casquette retournée à l'envers, les yeux noirs. Et là, elle s'en est pris à tout le monde. Alors, c'est vrai que sur le montage, sauf à Mathieu, mais elle s'en est pris, elle est vraiment tombée sur tout le monde et énormément sur Alix et moi, en fait.
Ah, d'ailleurs, elle avait eu des mots assez durs avec toi en disant, c'est limite, c'est t'as pas appelé le petit gros, quoi.
Oui, mais après, moi, ce que je disais, les mots qui sont dits dans l'aventure, parce que moi, j'en ai eu qui n'ont pas été montrés et j'en ai parlé avec ces candidats-là. Et moi, j'ai eu des mots envers d'autres candidats pendant l'aventure qui, pour moi, je pense, étaient durs. Donc, les mots qui sont dits durant l'aventure, j'en prends pas compte parce qu'il faut le remettre dans le contexte. Il y a la frustration d'être éliminé. Il y a la faim, la fatigue, le manque des proches, etc. Donc du coup, en fait, quand on additionne tout ça, il y a des choses qu'on peut dire et qu'on peut regretter après si on réfléchit pas avant de parler. Et typiquement, Carole, c'est pas une personne. Alors ça, on peut pas lui reprocher non plus, mais c'est pas une personne qui va réfléchir avant de parler. Elle va dire les choses comme elle ressent. Donc du coup, à ce moment-là, moi, je lui en ai pas voulu au moment de l'émission non plus. Je suis plus atteint par des mots qui peuvent être dits après l'émission sur des interviews, comme ça a été le cas par exemple avec Mathieu, que Carole à ce moment-là de l'aventure.
Alors, question de Wilson, après avoir revu ta saison, qu'est-ce que tu aurais aimé faire de différent ou de mieux ?
Alors, moi, clairement, la chose qui n'a pas été montrée, c'est que j'étais très très proche avec Loïc. Mais quand je dis très proche, on rigolait tellement. On dormait ensemble sur des chemins, on nous appelait les sangliers, les caméramans, ils nous disaient, mais c'est une vraie, comment on dit ça, comment ils disaient, que c'était une évidence, mais voilà, qu'on s'était bien trouvé, en gros. Et c'est vrai que j'ai pas du tout pensé, parce que moi, je pensais que Loïc, il allait jamais voter contre moi. Et c'est là où elle a été mon erreur, c'est que je pense trop. Et je pensais vraiment qu'il voterait pas contre moi et qu'il allait voter. En fait, vu que il faut quand même rappeler que Loïc, c'était son premier conseil. Et je pensais pas qu'il allait voter par stratégie. Je me suis dit, mais typiquement, allô?
Oui, je t'écoute.
Ah oui, putain, je pensais qu'on avait été coupé. Je pensais typiquement que Loïc, il allait voter au mérite, en fait.
Ouais.
Oui. Et chose que je savais que je suis allé voir Angélique, je suis allé voir Alexandra, je suis même allé revoir Alix parce que mine de rien, il y avait le vote de Mathieu dans les pattes. Donc, je me suis un peu sécurisé sur ça. Mais Loïc, j'aurais jamais pensé. Et en fait, ben, j'ai fait une erreur parce que finalement, la personne qui est allée le voir, c'est Dorian.
Et Dorian a été très très malin d'aller voir Loïc parce que Dorian voulait sauver Jody.
Très bien. Bah, merci beaucoup en tout cas. Puis du coup, je vais vous dire au revoir parce que là, l'épisode touche à sa fin. Donc déjà, remercie Aubin d'avoir pris le temps de venir répondre à nos questions et de commenter cet épisode avec nous.
Avec grand plaisir. J'espère que je t'ai pas trop hors sujet.
Ah non, pas du tout.
Pas du tout. Non, c'était parfait.
Alors, merci ensuite donc à nos intervenants, donc à Freeze, à Jade et à Wilson.
Mais il n'y a pas de quoi. Merci à toi, Damien.
Voilà, donc merci à Arnaud qui nous a sélectionné et monté des petits extraits audio qu'on va pouvoir, ceux que vous avez écoutés lors de cet épisode. Et puis, quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit, pour l'épisode 2 de Koh-Lanta, les armes secrètes. C'était Damien et je vous dis à la prochaine fois. Ciao.
Ah, c'était très sympa.
Bon, je te fais.